Nous sommes encore en train d'étudier une étude qui nous révèle des choses cachées, des mystères qui étaient cachés de tous les temps, mais qui ont commencé à être révélés au temps des apôtres. À cause de l'œuvre de Jésus, Dieu a commencé à donner des révélations. Dans le livre de Daniel, ça nous disait, tiens le livre, scelle le livre. Garde-les pour les temps de la fin, parce que la connaissance va augmenter, puis c'est là que les gens vont commencer à comprendre. Puis ces temps de la fin là, pour ceux qui ne savent pas, ils sont déjà commencés il y a 2000 ans. Quand que la prophétie de Daniel s'est accomplie, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Fait que ça fait déjà 2000 ans que ça s'est commencé, ça, les derniers temps. On est dans les derniers temps, mais là, on est dans les derniers temps des derniers temps. Il y a d'autres signes pour cette période-là, mais les révélations cachées que Dieu avait promis que dans les derniers temps, la connaissance va augmenter, elle est déjà augmentée depuis le temps que Jésus est venu pour nous apporter les révélations du ciel. Puis il y a plein de pièces du puzzle qui ont commencé à fitter ensemble, à cause des paroles que Jésus a dit, puis qu'est-ce que aussi les disciples, les premiers apôtres, ont eu comme révélation. Dieu est en train de nous révéler des mystères qui étaient cachés de tous les temps, puis à partir du temps de Jésus, les lumières ont commencé, puis là, les gens comprenaient des choses cachées. Puis merci Seigneur que 2000 ans plus tard, on est encore témoin de ces choses-là. Ça n'aurait pas arrivé qu'on vit dans une place, pas de Bible dans les mains, puis qu'on connaisse rien. On aurait vécu une vie comme un homme animal, un homme humain qui vit sa petite vie, puis mourir sans savoir pourquoi il est là, d'où ce qu'il vient, où est-ce qu'on s'en va. On n'aurait rien su. Puis paf, on arrive l'autre bord pas préparé. C'est pour cela que Dieu, il nous bénit de nous révéler ces choses-là. Puis en regardant les passages, mais savoir que c'est un mystère, puis qu'on le comprend, c'est super bénissant, mais en plus le vivre parce qu'on fait partie de ceux qui héritent toutes les promesses de Dieu. C'est à concentrer, toutes ces promesses sont concentrées, sont en Jésus. Puis si tu prends Jésus dans ta vie, tu commences à expérimenter toutes ces promesses. Tu as déjà des promesses pour ta vie terrestre, puis tu as des promesses qui s'en viennent dans pas long. On va y faire face, on n'a pas le choix. Il va falloir quitter ce monde, puis on va arriver l'autre bord, puis on va rentrer dans les autres promesses qui nous attendent. Des choses cachées, mais révélées. On le sait où est-ce qu'on vient, puis on le sait où est-ce qu'on s'en va. On vient de notre vie de péché, puis on s'en va dans la vie éternelle, puis c'est pas grâce à nous si on a pu rentrer. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Quand on a donné notre vie au Seigneur, c'est là que tout a commencé. Tu as reçu le pardon de tes péchés, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es devenu une nouvelle créature, une nouvelle création que Dieu avait promis d'avance qu'il était en train de faire, qui était pour faire un peuple, s'élever un peuple, se ramasser un peuple qui lui appartient. C'est le royaume de Dieu qui commence à s'ouvrir, puis qu'il y a plein de gens qui rentrent dedans. Puis aujourd'hui, bien, on est rentré dedans. Merci Seigneur. Puis on va comprendre encore un petit peu plus que la semaine passée, parce que c'est une suite un peu de la semaine passée. La profondeur du fait d'être l'Église du Seigneur. La semaine passée, on a parlé qu'on était l'Église du Seigneur. Le mot « Église » veut dire ceux qui ont été appelés à sortir d'eux. C'est ça le sens du mot « Église ». On est tous des gens qui ont répondu à l'appel de sortir d'eux. On sort du monde, on sort de notre vie de péché pour s'en aller vers, à répondre à l'appel de Dieu. Puis Dieu, il y a des rassemblements de gens qui font partie de la gang des sorties d'eux. C'est qui? C'est nous. La gang, c'est son Église. Dieu est en train de bâtir son Église. Mais son Église, dans la facette qu'on voit aujourd'hui, on va comprendre une autre révélation qui approfondit un peu le sens du mot « Église ». Puis ça nous fait comprendre une nouvelle facette, une nouvelle position qu'on a en Jésus. Oui, je suis un membre de l'Église du Seigneur. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, on va voir qu'on est aussi un membre du corps de Christ. C'est une profondeur un petit peu plus. Ça donne un autre sens à une de nos facettes, nos différentes facettes qu'on a héritées en Jésus. Est-il possible aujourd'hui de voir Jésus? Parce que j'en ai parlé tout à l'heure au début. Il y a des gens qui ont été voir. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, qui est un des 12 apôtres. Ils lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Les gens voulaient voir Jésus. Est-il possible aujourd'hui de voir Jésus? Bonne question. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient ça voir Jésus. On cherche Jésus. Puis ils l'attendent encore, un autre Messie. Ils attendent encore quelqu'un, mais ça ne sera pas le bon qui va se présenter dans pas long. Est-il possible aujourd'hui d'être touché par Jésus? C'est encore plus, tu peux le voir, puis tu peux être touché. Y a-t-il une possibilité? On a vu la semaine passée, parce que là on va continuer un peu dans la même idée, que Jésus avait été nommé le chef suprême de l'Église. C'est lui qui est nommé le chef suprême de l'Église, mais on ne le voit pas avec nos yeux humains, mais on le sait que Dieu a nommé Jésus dans les cieux, puis il a donné plein de titres et aussi une position spéciale, puis il l'a mis en tête de son Église. On a vu ça dans Éphésiens 1, 22. On va regarder ce verset-là, puis on va voir un autre bout au bout de ce verset-là. C'est ça qu'on veut rentrer aujourd'hui. Éphésiens 1, 22, Dieu, ça nous dit que Dieu a tout mis sous ses pieds à Jésus. On ne voit pas que tout lui est présentement soumis, mais il a déjà reçu la position d'être le nom au-dessus de tout nom. Dieu attend juste un jour où ça va être le couronnement. La position est déjà acquise. Il a déjà remporté la victoire pour obtenir le titre de celui qui a l'autorité suprême sur tout. Là, en attendant, le monde est encore libre, puis c'est dans la permission de Dieu de laisser encore le monde libre. Mais Jésus a reçu toute autorité, tout pouvoir. Un jour, il va revenir, puis il va prendre sa place dans ce monde. Il laisse le temps aux gens, il laisse le temps encore aux nations, laisse le temps aux gens de se repentir, puis d'accepter Jésus, parce que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, il veut que tous arrivent à repentance, que tous réalisent, puis qu'ils admettent que oui, Jésus est Seigneur, puis les confessent que Jésus est le Seigneur afin d'être sauvés. Fait que Dieu leur donne du temps. Dans Éphésiens 1, 22, ça dit que Dieu, le Père, a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné à Jésus d'être le chef suprême de l'Église. C'est le boss de la nouvelle armée qui s'est élevée. De toutes les appelées à sortir d'eux, c'est nous, on a répondu, on est son Église. Jésus, on a vu la semaine passée que Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. » Puis il a commencé à construire son Église. Puis à chaque jour, il y a du monde, du nouveau monde qui sont introduits, sont greffés à l'Église. Ils se rajoutent au rassemblement. Puis Jésus a été donné comme chef suprême de l'Église, c'est le boss de tous les sauvés. Et, qu'est-ce qu'on lit dans ce verset-là, juste l'autre verset, le début, il a donné pour chef suprême à l'Église, au verset 23, qui est son corps. Là, on est en train de comprendre une autre dimension de l'Église. Ce n'est pas juste le fait d'être un appelé de sortir de. On est beaucoup plus que ça présentement. On l'a dit de différentes manières, qu'on était des temples de Dieu, que le Saint-Esprit est entré en nous, etc. Mais dans le Saint-Esprit, tu as Dieu le Père, tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit, il rentre en nous. Fait que on est le temple de Dieu sur une facette, mais dans d'autres facettes, on va voir aujourd'hui que l'Église, Chaque membre de l'Église fait partie de son corps. Donc, ça nous dit qu'il y a un mystère, là. C'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose qui n'est pas révélé, que les gens ne comprennent pas. Ils ne savent même pas que c'est possible de voir les membres du corps de Jésus sur cette terre. Ils ne savent pas ce qui est Jésus. Ils aimeraient voir Jésus. Mais Jésus est là corporellement aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut voir Jésus? Jésus est encore corporellement présent dans le monde à travers son Église. L'Église est présentement le corps de Jésus. Nous avons été appelés en tant qu'on a reçu l'appel, on est devenu membre de l'Église. Il dit l'Église, c'est son corps. On a été appelés à former son corps. Un seul corps, ça nous dit. On voit ça dans Colossiens 3:15. Ça nous dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'est un mystère révélé par les apôtres, parce qu'avant que Jésus vienne, c'était impossible de faire partie de comprendre que le Christ pouvait être encore présent sur la terre suite à sa mort et sa résurrection, puis qu'il pouvait se choisir des êtres, parce que c'est à cause de son sacrifice que ça a été rendu possible. Sans cela, ça aurait été impossible. Mais à cause de son sacrifice, il y a des gens qui peuvent recevoir le pardon de péchés et que le Christ lui-même, Jésus, entre en eux, puis qu'ils deviennent ces gens-là, sans des fois qu'ils le savent, qu'ils ne savent pas. On est présentement le corps de Jésus sur cette terre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le mot Christ, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire oint. Jésus était le oint. Et nous, nous avons tous été oint. On est des petits oints. Il y a le grand oint, puis il y a les petits oints. Nous, on est des oints. On a reçu l'onction du Saint-Esprit qui est rentré à chacun de nous. Puis nous sommes comme des petits Christ, des petits Jésus dans ce monde. La Bible dit que nous sommes un seul corps. Il n'y a pas, mettons, s'il y aurait 5 millions de chrétiens, il n'y a pas 5 millions de corps de Jésus. C'est pas de même qu'il faut le prendre. Il y a un seul corps. Nous sommes appelés à former un seul corps. L'ensemble des 5 millions de chrétiens qu'il y a sur cette terre sont un seul corps, le corps de Jésus. Dans Éphésiens 4:4, ça nous dit, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Voyez-vous, Dieu n'y a pas... S'il y a 5 millions de chrétiens, il n'y a pas 5 millions de corps, c'est un seul corps. L'ensemble des croyants sur cette terre sont alimentés par un seul esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Par ce seul esprit, qui est rentré en chacun de ceux qui l'ont reçu, ça a donné le pouvoir de devenir participant du corps de Jésus à travers la planète. On a tous la même espérance, c'est qu'un jour, on se retrouve avec le Seigneur lui-même pour vivre l'histoire sans fin. Et on va y aller parce que Dieu y est fidèle. Amen. Amen. Jésus a accompli le sacrifice ultime par sa mort, donnant accès aux païens comme aux juifs à former un seul corps. Parce que la promesse originale était que pour les Juifs, mais Jésus est venu pour nous briser l'inimitié. Il y avait un mur entre les Juifs et les païens. Puis Jésus, par sa mort, il a renversé le mur qui nous séparait, puis maintenant l'accès est donné à toutes les nations. Tout le monde peut devenir participant du corps de Christ. Dans Éphésiens 3, 6, ça nous dit « ce mystère », il parle d'un mystère. Quand on parle d'un mystère, c'est une révélation, c'est quelque chose de caché, impossible de comprendre, puis on comprend cette idée-là quand tu viens à Jésus. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, puis forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. À cause de la bonne nouvelle que Jésus il est venu accomplir la bonne nouvelle, le Messie est venu, il est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Que tu sois un juif, que tu sois un païen, la bonne nouvelle, c'est que tu puisses avoir l'ouverture de te connecter, puis d'entrer, pour faire partie du corps de Christ sur cette terre. C'est quelque chose de grandiose, c'est un mystère, comme je disais tantôt. Puis, il y en a quelques-uns des mystères qui sont révélés dans ce message-là aujourd'hui. On va comprendre aussi une autre chose tantôt, puis c'est, mais qu'on soit rendu là, vous allez dire, wow, on a hâte d'être rendu là, mais qu'on soit rendu là, ça va être extraordinaire. Comment est-ce qu'on va se sentir bien, béni, privilégié, comment c'est une grâce qu'on mérite pas, mais c'est des bénédictions que Dieu avait préparées d'avance avant même qu'on soit ici. Avant même que la vie commence sur cette terre, Dieu avait déjà commencé, préparé d'avance à nous faire participer, à devenir membre de son corps et de profiter de toutes les bénédictions éternelles qu'on va avoir à cause qu'on est participant de son corps. Jésus nous a donné une petite image, il a commencé à nous révéler l'idée du corps, que l'Église formait un seul corps. Puis ça, on le fait quand on fait la Sainte-Cène. Quand on prend le pain, en principe, on prend un pain, puis Jésus, c'est ce qu'il a fait à la Sainte-Cène. Il a pris du pain, puis il l'a coupé en morceaux. Il le sépare en bout, puis il en a donné un morceau à chacun de ceux qui étaient là, puis il dit, prenez-en tous, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Tous les participants, le symbole que ça donne, là, tous les participants qui mangent une partie du corps de Jésus, c'est symbolique, là, bien entendu, c'est pas réellement son corps, c'est symbolique. On mange son corps, on est en train de démontrer que moi, en mangeant, je suis participant du corps de Jésus, du pain qui a été splitté, qui a été rompu. Puis moi, j'ai ma part, puis l'autre à côté a sa part, puis l'autre à côté a sa part. Chacun, on est une part de ce pain qui est le corps de Jésus qui a été rompu pour nous. C'est le symbole, la révélation commençait là. Ça, on voit ça dans Luc chapitre 22, le verset 19. Ça nous dit, « Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit en leur donnant, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Fait qu'il voulait que ça se répète pour qu'on puisse se rappeler que son corps était rompu et que chaque personne qui en mange font partie de ceux qui y ont une part au corps de Jésus. La révélation commençait là. Plus tard, l'apôtre Paul, il a continué cette idée-là en nous expliquant quelque chose dans 1 Corinthiens 11, 27 à 29. Puis là, Paul, dans son explication, parce que dans l'église de Corinthe, il y avait un désordre, puis pendant qu'il faisait la Sainte-Cène, à partager le pain et le vin, il amenait le lunch, il mangeait dans l'église, il y en a qui mangeaient et buvaient au point d'être rendus ivres, puis il y en avait d'autres, des pauvres, qui n'avaient rien à manger dans l'église. Fait que les autres se saoulaient, puis ils mangeaient, entre parenthèses, comme des cochons, puis les autres, il n'y avait rien. Puis là, l'apôtre Paul, quand il leur a expliqué, là, il dit, c'est grave qu'est-ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes en train de pécher contre le corps du Seigneur. Comment est-ce qu'il peut expliquer ça? On va aller lire ça dans 1 Corinthiens 11, 27 à 29. L'apôtre Paul, il dit, « C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Comment? Puis là, il nous dit au verset 28, Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, ben il mange et boit un jugement contre lui-même. Ça veut dire que quand on est en train de réunir, c'est ce qu'il est en train de le dire, quand vous êtes en train de vous réunir entre frères et sœurs, puis que vous partagez, mais ça faut que tu discernes le corps du Seigneur. Il faut que tu réalises que tous les frères et sœurs qui sont là, des gens nés de nouveau, font partie du corps du Seigneur. Puis là, il y en a qui s'enivraient, puis ils mangeaient, puis les autres n'avaient rien à manger. Il dit, il est en train de participer au corps et au sang de Jésus d'une manière indigne, sans discerner le reste du corps. Puis là, il dit, vous êtes en train de pécher contre le corps. Il les a expliqués dans les autres versets autour. Il dit, si vous voulez manger et boire, mangez chez vous, puis buvez chez vous. Mais dans l'Église, faut toujours discerner que toutes les brebis qui sont là font partie du corps, puis que je dois respecter cela moi aussi. Puis si j'en ai plus, j'en donnerai à celui qui n'en a pas, pour que tout le monde puisse en avoir. Tout le monde doit participer au corps et au sang de Jésus. Voyez-vous? On n'est pas là pour que celui qui en a, ça se trouve à mépriser l'autre qui n'en a pas, voyez-vous. S'il y en a qui veulent faire des excès de manger puis de boire, qui fassent ça chez eux, autrement dit, mais dans l'Église, respecter le corps. Puis ça fait partie de la révélation pour commencer à comprendre que les disciples du Seigneur sont beaucoup plus que juste des disciples. Sont le corps du Seigneur. Puis il faut apprendre à discerner que chaque personne est membre de son corps. Nous ne sommes pas individuellement le corps. Nous ne sommes qu'un membre du corps. Ça fait une différence, ça. Parce qu'il y a des gens qui se pensent, moi, je suis le corps du Seigneur. Puis là, ils méprisent le reste de l'Église, puis ils ne vont pas à l'Église. Il se dit, je suis le corps du Seigneur. Non, tu n'es pas le corps du Seigneur. Tu es un membre du corps du Seigneur. Puis le membre a besoin du reste du corps. Dans Romains 12, 5, ça nous dit que c'est l'ensemble des gens sauvés qui forment son corps. Dans Romains 12, 5, ça dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. En tant que membre, en tant qu'Église, on est plusieurs, ça nous dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, puis chaque membre du corps sont membres les uns des autres. On est un membre du corps. Des membres différents, on n'a pas tous la même fonction dans son corps, mais Dieu a voulu que les gens soient, je dirais, pas autonomes ou autosuffisants par lui-même. Dieu a fait son plan pour que chaque personne réalise qu'elle a besoin des autres membres du corps. C'est ça qui est le point. Dieu veut que tu réalises que tu as ta place dans l'Église comme membre du corps, et que tu as ta place dans le corps, mais oublie pas qu'il y en a d'autres qui sont là, qui sont membres du corps, eux ont besoin de toi, toi tu as besoin d'eux, parce qu'on n'est pas notre corps, on est le corps du Seigneur, puis on a chacun notre place dans ce corps-là. En étant membre d'un seul corps, on va s'apercevoir que nous n'avons pas tous la même fonction. Dans 1 Corinthiens 12, 14, ça nous dit, « Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Si je serais venu au monde, moi, là, puis j'aurais juste 5 bras, puis j'aurais pas rien d'autre que 5 bras, ben on aurait dit, « J'ai un problème, je peux prendre beaucoup de choses à la fois, mais je peux pas me promener, ben voyez-vous, j'ai besoin aussi de 2 jambes pour marcher, 2 bras, puis j'ai toutes sortes de membres pour former un seul corps. Dans l'Église, c'est la même chose. On n'est pas tous le même membre. On n'a pas tous la même tâche, la même fonction. S'il y en a un qui est un, comme on donne un exemple, il est un œil, l'autre c'est une oreille, l'autre c'est la bouche, puis l'autre c'est un bras, puis l'autre c'est une jambe, mais on est tous importants pour le corps, puis chacun a sa place pour former son corps. Jésus a fait ça par exprès, que tous les dons ne sont pas donnés juste à une personne. Il veut que tout le monde réalise qu'on a notre place et notre importance dans l'Église. Puis je dois mettre au service des autres le don que j'ai reçu. Il est important. Si quelqu'un néglige d'être là ou néglige de s'investir, bien, tous les autres souffrent du manque de quelque chose. Qu'on s'en rende compte ou pas, on est tous importants. On a tous des tâches différentes, puis on n'a pas tous le même don, puis on n'a pas à se comparer les uns les autres. Parce que souvent, on peut se comparer, « Ouais, mais lui, il a de l'air à avoir plein de dons, puis moi, j'en ai pas, ou je le vois pas, ou j'en ai un, puis là, on se compare, puis on se décourage. » Commençons à mettre au service des autres ce qu'on réalise qu'on a reçu du Seigneur, puis au fur et à mesure de votre croissance dans le Seigneur va multiplier vos capacités. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, je n'étais pas capable de rien faire. À part que d'être là puis d'écouter. Jusqu'à temps que, là, ça commençait à bouillir, j'ai commencé à m'occuper de l'école du dimanche. Ça faisait 6 mois que j'étais chrétien. Mais je lisais la Bible, puis je comprenais des affaires, puis je voulais m'impliquer. J'ai demandé, puis ils ont dit oui. Fait que c'est de même que ça commence. Puis là, en le faisant, ça développe des capacités. Le Seigneur dit, si t'es fidèle dans les petites choses, il va t'en confier d'autres. Après ça, peut-être deux ans plus tard, j'ai commencé par être trésorier dans l'Église, secrétaire. Après ça, ben, au bout de 6 mois, j'ai commencé à apprendre à jouer de la... Non, peut-être un an et demi, j'ai commencé à jouer de la guitare. Là, comme ça a pris, quand j'ai commencé à pratiquer, une couple de mois, un mois, je pense, ça a pris avant que je commence à jouer à l'église. C'était pas comme aujourd'hui, c'était pas mal plus carré. Mais c'est pas grave, tu fais des affaires, puis tu avances, tu t'impliques, tu fonces. J'allais d'une église qui avait à Valleyfield, j'habitais à La Prairie. Je voyageais ça pour aller à l'église, pour ouvrir une église à Valleyfield. Il y avait une musicienne qui venait jouer de la guitare. Elle restait à Boucherville. Là, je me disais, elle viendra pas tout le temps, elle, Boucherville, Valleyfield, ça commence à être loin. Là, j'ai demandé au Seigneur pour que j'aie une guitare, pour que je l'apprenne. Puis là, la madame qui jouait de la guitare m'en a donné une. Puis là, j'ai commencé à pratiquer. La première journée, j'ai appris une chanson. Deuxième journée, j'en ai appris une autre. Troisième journée, j'en ai appris une autre. Un mois après, j'ai commencé à gratter, la madame venait plus. Mais je me doutais qu'elle viendrait plus, puis c'est moi qui a commencé à m'impliquer là. Mais c'est de même que ça marche dans le Seigneur. Il faut que tu vois l'ouvrage qu'il y a à faire, puis si tu as le moindre même petit intérêt, lance-toi. Le Seigneur va t'aider, puis il va t'aider. Tu vas apprendre. Je savais rien jouer avant que de la guitare quand que j'ai commencé. Si tu te lances, tu commences, tu pratiques, mais à un moment donné, tu joues. C'est de même. Dans tout, c'est de même. Même si tu penses que tu ne l'as pas, demande à Dieu qui te guide, qui trouve des portes, qui te montre ta place. Tu es un membre de son corps. Pis on n'est pas tous le même membre. Pis on n'a pas à chercher mis tes autres. Il faut trouver notre place. Puis tout le monde est important. Pis quand tout le monde va mettre au service des autres, les dons qu'ils ont reçus, l'Église va solidifier encore plus, puis il va y avoir plus de fruits au bout de la ligne. C'est de même que Dieu il nous explique ça. Dans 1 Corinthiens 12, 14, il dit, « Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Chaque membre est important, on a tous des membres différents. » S'il y en a un qui joue de la guitare d'une façon, l'autre peut jouer différemment. Fait que ils peuvent jouer ensemble comme ils peuvent jouer en deux moments différents. Puis ça fait de la variété. Des fois, tu es toupette sur un bord, puis tu as une peigneuse sur l'autre bord. Ça fait de la variété. Nous sommes tous importants. Dans 1 Corinthiens 12, 15, ça nous dit, « Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. » ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Puis s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? On est tous des membres différents, puis on a toute une place, puis il faut trouver notre place. Puis c'est pas à cause que genre, ben moi, je suis pas Billy Graham, je peux pas faire grand-chose. Non, tu n'es pas obligé d'être Billy Graham. Lui, il est Billy Graham, puis il a fait sa job. Moi, je suis Daniel Poulain, je fais la mienne. Puis vous n'avez pas à imiter Daniel Poulain pour faire les choses de Daniel Poulain. Oui, s'il y a des choses qui vous intéressent, faites-les, mais c'est pas notre modèle, c'est Jésus. Trouvez ce que Dieu vous appelle d'incapacité que lui il a choisi, puis vous allez être en train de le servir à 100% dans ce qu'il vous a appelé. C'est Dieu qui décide de notre rôle dans son corps. C'est le chef suprême de l'Église. Il faut apprendre à lui demander, c'est quoi que tu voudrais que je fasse, Seigneur? Montre-moi-les, je veux me servir. Puis le Seigneur va te le montrer. Puis si tu n'as pas tout déjà reçu ce qu'il te faut pour y arriver, il va t'équiper puis il va te donner tout ce que tu auras besoin pour y arriver, parce que c'est lui qui distribue les dons. Dans 1 Corinthiens 12, 18, ça nous dit, « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » C'est ce que ça dit. Si vous êtes ce que vous êtes, de la forme que vous êtes, de la grandeur que vous êtes, de la grosseur que ça vous êtes, c'est parce que Dieu l'a voulu. Faut dire, merci Seigneur de ce que je suis, une créature merveilleuse. C'est quoi que tu as comme plan pour moi? Puis le Seigneur va tout vous montrer ce qu'il a préparé d'avance pour vous. Individuellement, vous êtes tout important dans son corps. Fait que je répète ça, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. C'est beau ça? Fait que ça enlève des complexes. C'est vrai? Si quelqu'un dit, moi j'ai un gros nez, moi je suis gêné, c'est Dieu qui te l'a donné. Il veut que tu sois comme ça. Faut être capable de s'accepter comme qu'il l'a voulu. Amen! Gloire à Dieu! Puis il dit, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Vous comprenez? On est le corps de Christ, puis on est chacun à notre place. On peut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres, puis qu'on reste à l'écart. Il y en a qui pensent comme ça. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres. Dans Corinthiens 12, 21, il dit, « L'œil ne peut pas dire à la main, « J'ai pas besoin de toi. » Ni la tête dire aux pieds, « J'ai pas besoin de vous. » Le corps a besoin de tous ses morceaux. Puis si un morceau est arraché du corps, qu'est-ce qui va y arriver, vous pensez? On m'arrache un bras, là, puis on le met à la table. Il va mourir. Le corps avait besoin de ce que le reste de mes organes produisent dans mon sang pour y communiquer les vitamines, les minéraux, les protéines, la circulation pour les cellules d'oxygène, puis tout, pour maintenir la vie dans mon corps. Si le corps, ce bras-là, il se pense intelligent, il se pense fort, puis on l'arrache, puis on le met, il dit, moi, je ne vais pas à l'église. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Ça va faire qu'il ne recevra plus ce qui procurait la vie qui découlait du corps. Puis c'est important, c'est Dieu qui a choisi que le système fonctionne de même. Il aurait pu faire que chacun est autosuffisant, puis qu'on puisse faire chacun faire notre propre affaire sans les autres. Il aurait pu choisir ce plan-là, mais ce n'est pas celui-là qu'il a choisi. Il a choisi de faire un seul corps, puis chaque membre est dans le corps. Il est important pour que les autres puissent recevoir ce qui vient des autres. Mon cœur a une importance, mes poumons ont une importance, mes reins ont une importance, mes intestins ont une importance. Enlève-en juste un de ces membres-là, de ces bouts-là, ça ne fonctionne plus. Mais le corps de Christ, c'est la même affaire, puis Dieu, il ne veut pas qu'on pense qu'on peut être à part des autres, puis qu'on reste déconnecté. Il veut qu'on ait une vision, un seul corps, Je suis qu'un membre de ce corps. Ils ont besoin de ce que je suis, puis j'ai besoin de ce qu'ils ont. Le Seigneur ne veut pas de division dans son corps. Ça, c'est important de parler un peu tantôt. Dans 1 Corinthiens 12, 25 et 26, ça nous dit « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Fait qu'au lieu de chercher à être séparés, on devra avoir une vision « Je m'investis pour renforcer le groupe, pour faire parler de façon à bénir les autres, m'offrir, servir les autres, aider les autres, encourager les autres. » Le groupe va devenir encore bien plus fort. Dieu ne veut pas qu'on se divise. Il veut qu'on ait soin les uns des autres. Des fois, ça va être moins qui vont avoir besoin. Des fois, ça va être d'autres qui vont être besoin. Puis si tout le monde le fait quand c'est le temps, tous les besoins sont toujours comblés à l'année longue. Il nous dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ce n'est pas une compétition. S'il y en a un qui reçoit des honneurs, il faut être fier qu'il a reçu ses honneurs. Il a fait quelque chose, puis je ne suis pas jaloux. Ah oui, comment ça se fait, c'est ton lui. Puis moi, mais non, il ne faut pas être jaloux. Il faut lui dire, gloire à Dieu, le Seigneur t'a donné encore une victoire, puis là, tu l'encourages, à un moment donné, ça sera à ton tour. On est là pour, s'il y en a un qui souffre, mais tu vas l'encourager, tu vas le consoler, tu pries pour lui, tu lui donnes des paroles pour le relever, puis tout le monde va être béni. Le corps va se solidifier. C'est ça que Dieu veut dans son corps. Jésus a placé dans son corps les membres nécessaires pour la croissance du corps. On a tous reçu quelque chose pour que tout le monde puisse grandir dans le Seigneur. Dans Éphésiens 4, 11, là, on prend assez régulièrement ce passage-là, mais c'est de comprendre l'idée qui est en arrière ça. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Fait que les dons ont été donnés pour que le corps s'édifie. Mais là, il a donné cette liste-là, mais il y en a d'autres. Donc, il a donné don de guérison, don de miracle, don de chasser la don de foi qui favorise des actes surnaturels pour chasser des mauvais esprits, etc. Puis il y a les paroles de connaissance, paroles de sagesse, des prophéties, le discernement des esprits, le don des langues avec l'interprétation. Des dons, là, il y en a plein. Ça, c'est à part des dons de service, les dons de compassion, les miséricordieux, ceux qui sont au service des autres, combler les besoins, des gens qui prient pour les autres, des gens qui aident financièrement, il y a des gens qui aident physiquement aussi, en offrant le temps. L'ensemble du corps a déjà tout ce qu'il faut pour fonctionner. Il s'agit juste d'être ouvert, Seigneur, puis il y en a quelques dons qui manquent, si on réalise qu'il en manque. Aspirons aux dons les meilleurs, puis Dieu va les communiquer. Parce que tout ce qu'on reçoit, ça vient du Seigneur. Tout don excellent, toute grâce parfaite descend d'en haut du Père de la lumière. À une autre place, il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme l'autre verset, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. C'est tous des versets pour nous démontrer qu'il n'y a rien qui vient de nous, tout vient de Dieu, puis on a juste à demander ce que Dieu est prêt à nous donner en fin de compte, pour que le corps grandisse, puis qu'on puisse accomplir le ministère, le service qu'on a à faire ici dans ce territoire. Amen.
Amen.
Tous les dons et les capacités sont donnés par Jésus à chacun des membres pour la croissance du corps. On voit ça dans Éphésiens 4, 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, parce que là, chaque personne qui a reçu de lui assiste Jésus dans le travail dans l'Église. On travaille avec le Seigneur, on est en train de l'assister. On travaille avec. Chacun met de ce qu'il a reçu. Il dit, de Jésus, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, forme un solide assemblage, puis il tire son accroissement selon la force qui convient dans chacune des parties, puis il s'édifie lui-même dans l'amour. Voyez-vous, tout vient de Dieu, chacun reçoit quelque chose, puis il met au service des autres, puis tout le corps devient un solide assemblage, puis on tire notre accroissement de ce que Dieu nous a donné. La question que j'ai posée au début, est-il possible de voir Jésus aujourd'hui? Est-il possible aujourd'hui d'être touché par Jésus? Oui. Jésus est encore présent dans ce monde, puis il agit encore aujourd'hui au travers de son corps. Chaque fois que je m'en service des autres, un don que Jésus m'a donné, vous êtes en train d'être touché par ce que Jésus m'a donné. C'est Jésus qui est en train de vous donner ce que vous avez besoin. La même chose quand vous mettez votre don au service des autres, les autres, ils sont en train de se faire toucher par un don qui vient de Jésus. C'est Jésus qui est en train de les toucher. Quand vous vous promenez dans ce monde, vous êtes les yeux du Seigneur puis vous êtes les mains du Seigneur. Ce que vous touchez, mais le monde sont touchés par Jésus. Jésus n'a pas dit, celui qui vous rejette, me rejette et rejette celui qui m'a envoyé. Quand quelqu'un nous rejette, il rejette point que nous. Il rejette Jésus, puis il rejette Dieu le Père. Parce que quand moi j'avance, puis je vais vers eux, je vais là dans le nom de Jésus. Jésus est en moi, puis Jésus veut les toucher par une parole que je lui dirai, ou par des gestes que je vais faire, ou par une prière. Puis c'est Jésus qui est en train de les toucher à travers moi, parce que je suis un membre de son corps. Il est là, dans ce monde, encore en train d'agir aujourd'hui, à travers l'Église. On voit ça dans Colossiens 1:6. L'apôtre Paul, il dit, en parlant de Jésus, « Il est au milieu de vous, Jésus. Et dans le monde entier, Jésus est présentement dans le monde entier. » Il porte des fruits et il va grandissant. Jésus est en train de grandir présentement. Comment est-ce qu'il peut grandir, Jésus? Il grandit en grosseur. Plus que le monde, plus que le corps grandit. Son corps, qui est dans le monde, l'Église, plus que le monde qui accepte Jésus, plus que Jésus grandit sur cette terre. Son champ d'action s'élargit. Il y a une disponibilité d'avoir des gens qui veulent qu'à le prêcher parmi toutes les nations. Il y en a partout. Jésus est partout dans le monde présentement. Jésus est ici au Québec, il est ici à Beauharnois, puis il est en même temps en Afrique, puis il est en Australie, puis il est au pôle Nord. Il y en a des sauvés au pôle Nord. Il est partout. Il est là en esprit, oui, parce qu'il remplit toutes choses, puis en esprit, il est partout. Mais corporellement, quand l'Église s'agrandit, mais Jésus s'en va grandissant dans ce monde, puis il porte des fruits. Parce que chaque personne qui porte des fruits, c'est Jésus qui fait porter les fruits dans la personne. Fait que c'est encore Jésus qui doit être glorifié dans tous les fruits qui sortira de tous les membres de son, de tous les membres de son corps. Un dernier verset pour finir ça, qui est encore un mystère qu'on va toucher, on va effleurer aujourd'hui, mais qui va être expliqué une autre fois. À travers l'idée que nous sommes une seule chair dans le mariage. Tu sais, quand que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux forment qu'une seule chair, un seul corps. Même si sont deux corps, Dieu, quand il regarde ça, il voit un seul corps. Ça, vous la comprenez, celle-là, hein? Puis vous cherchez à la mettre en pratique. Mais Paul nous explique un grand mystère par rapport au mariage du Christ et de son corps. dans Éphésiens 5, 29 à 32. Là, il dit, personne ne haït sa propre chair, mais il la nourrit, puis en prend soin, comme le Christ le fait pour son Église. Jésus, il aime son Église. C'est son corps. On l'a vu tantôt. L'Église, c'est son corps. Puis il en prend soin de son corps. Comme un mari qui aime sa femme, mais il veut pas qu'elle meure de faim. Hein? Il va la nourrir, il va l'habiller, puis il va en prendre soin. Les luxes, ça, c'est des extras. Mais tout ce qui est nécessaire au corps, l'homme le fait parce que c'est sa propre chair. Jésus fait la même chose avec son Église. Vu que l'Église est son corps, il en prend soin puis il la nourrit. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Fait que là, il prend soin de nous parce qu'on est membre de son corps. C'est pourquoi, comme là, il nous explique l'idée de l'homme qui t'aura son père et sa mère, s'attachera à sa femme, puis les deux corps, formeront qu'une seule chair. C'est à ça la pensée du mariage, la pensée biblique de Dieu face au mariage. C'est pas juste une union, un signé papier sur un contrat, là, bien plus connecté que ça. Dieu, quand il unit deux personnes, il n'en voit plus deux, il en voit juste une. Un seul corps, même si ce sont deux corps. Puis là, Paul nous explique ce détail-là, qui est le verset 32. Il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ puis à son Église. Il y a un mystère, quelque chose qui n'était pas révélé, mais que Paul comprenait, puis qu'on va voir dans une autre étude, à propos du plan de Dieu face à ce qui va se produire dans pas long, entre Jésus et son corps, son Église. Ce que Jésus va faire, il y a un mystère que je vous donne juste la puce à l'oreille, ça parle de mariage, d'unification, une noce qu'il va avoir, puis Jésus va se marier avec son Église, avec son épouse, avec son corps. Il va faire qu'un, puis les deux formeront qu'une seule chair. Il y a un grand mystère, il y a une révélation cachée que le monde ne connaît pas, mais qu'un jour, lorsqu'on va être là, en train de le vivre, on n'en croira pas nos yeux et nos oreilles. Ça va être grandiose, les noces de Jésus. Il dit, ce mystère est grand, en parlant que les deux deviennent une seule chair. Il dit ça, je dis ça, par rapport entre Christ et son Église, qui est son corps. Il y a de quoi de super qui s'en vient à propos d'un mariage, d'une unification pour former qu'un avec le Seigneur. Un jour, on va le vivre. Puis, merci Seigneur pour ces merveilleuses promesses. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous enseigne qu'on est ton corps puis que tu veux agir à travers de nous dans ce monde. Seigneur, on est ouvert à ce que tu puisses nous utiliser. Guide-nous dans ce que tu as préparé d'avance, selon ce que toi tu as décidé. Montre-nous quelles sont les œuvres que tu as préparées pour chacun. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu veux faire à travers de chacun dans l'Église pour la croissance et l'édification du corps de Christ. Merci de tes promesses aussi par rapport aux choses à venir pour le mariage que tu veux faire avec ton Église. Seigneur, nous remettons nos ventres à tes mains pour que tu nous diriges dans ton œuvre, dans le nom de Jésus. Amen.